Bienvenue sur Europe 1, il est 6h.
Désormais, c'est clair, c'est assumé, c'est annoncé. Avant même le premier tour, il n'y a plus aucune différence entre les LR et La République En Marche.
Stéphane Ravier, le sénateur RN des Bouches-du-Rhône, tacle le rapprochement entre La République En Marche et Les Républicains pour les régionales en PACA, une alliance politique qui secoue la droite. Fini les restrictions de déplacement, première étape du déconfinement aujourd'hui avec la reprise un peu hybride des collégiens et des lycéens. Nordal-Lelandais devant les assises de Chambéry, le maître chien comparé à partir d'aujourd'hui pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Et puis c'est une information Europe 1, une nounou de la Baule est accusée de violence physique et sexuelle sur un enfant de 5 ans dont elle avait la charge.
À suivre la page des sports, et puis mon invité inattendu sera la nouvelle ambassadrice de la fondation 30 millions d'amis. Vous allez la découvrir et vous verrez qu'elle évolue dans un milieu plutôt étonnant. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La droite secouée après le rapprochement entre La République En Marche et Les Républicains pour les régionales en région PACA. Renaud Muselier, le président sortant, s'est vu retirer son investiture LR. Pour Stéphane Ravier, sénateur RN et élu au conseil municipal de Marseille, ces manœuvres politiques trompent les Français.
Désormais, c'est clair, c'est assumé, c'est annoncé. Avant même le premier tour, il n'y a plus aucune différence entre les LR et La République En Marche. Renaud Muselier qui voulait faire encore illusion, ou qui faisait illusion il y a encore quelques jours, était déjà en pleine négociation. Il a obtenu ce qu'il voulait, le soutien d'Emmanuel Macron. Il ne se rend pas compte que c'est comme la corde qui soutient le pendu, mais c'est une réalité. Les électeurs sont donc informés qu'il y a un bloc d'un côté, les Républicains En Marche, et les listes conduites par Thierry Mariani. Voilà une belle clarification. Donc tout ça va se traduire pour lui par une soustraction électorale. Parce que nous tendons la main. Nous tendons la main aux électeurs LR ainsi bafoués, méprisés et, si j'ose dire, cocufiés.
Voilà pour les mots de Stéphane Ravier. Et de l'autre côté, côté En Marche, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui s'est rangée derrière Renaud Muselier, justifie cette alliance.
Elle était l'invitée d'Europe 1 hier soir.
Nous allons tout simplement unir nos compétences pour notre région d'abord, en agissant ensemble. Ce sont les deux slogans qui se réunissent et qui se réunissent très bien pour le projet que l'on a, projet très très vite et très très fort se rassembler pour offrir cette alternative aux habitants, aux électeurs. Cette crise sanitaire nous oblige à aller très très vite pour reconstruire un projet qui respecte toutes les différences. Ensemble, on est plus fort. On a beaucoup de choses qui nous rassemblent avec Renaud Muselier, avec sa majorité. Et nous allons travailler très, très rapidement sur les équipes, sur le programme, pour respecter les différences de chacun et s'enrichir de nos différences. C'est une addition d'enrichissement et ce n'est pas du tout ce que dit, au contraire, le Rassemblement national.
Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui s'est rangée derrière Renaud Muselier.
Oui, je vous rappelle qu'Éric Ciotti, le député Les Républicains, sera l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. On en vient à la première phase du déconfinement à partir d'aujourd'hui. Fini les restrictions de déplacement. Et puis c'est le retour en classe des collégiens.
Et seules les classes de 4e et de 3e des départements les plus touchés reprennent les cours en demi-jauge. Retour en classe hybride et en demi-jauge aussi pour tous les lycéens. Mais alors, comment vont se passer ces prochaines semaines? On fait le point avec vous, Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, est-ce que ces professeurs ont reçu des consignes particulières du ministère pour insister sur tel ou tel point ?
Non, aucune consigne particulière du ministère. Après, c'est vrai que les situations et donc les objectifs de cette fin d'année sont très différents selon les niveaux. Au collège, la majeure partie de l'année s'est déroulée en présentiel, donc quasi normalement. C'est au lycée que c'est beaucoup plus compliqué. D'abord pour les secondes, qui pour certains subissent un enseignement à distance ou en demi-groupe depuis novembre. On voit des élèves qui n'ont même pas encore compris comment fonctionne le lycée, me confiait un professeur. Ensuite, pour les premières, il faut consolider les acquis, récupérer tous les élèves et les remettre dans une dynamique de travail. Enfin, concernant les terminales, il y a un objectif principal, le nouveau grand oral du bac à la fin de l'année. Même si un futur juré me disait « on ne cherchera pas à les piéger », on a conscience qu'ils subissent des conditions d'enseignement très particulières depuis plus d'un an.
Et est-ce qu'il y aura des conséquences sur l'année prochaine? Parce qu'on imagine que c'est difficile de rattraper le retard qu'ont pris certains élèves.
Oui, car clairement, cette fin d'année ne permettra pas de rattraper tous les retards accumulés. C'est pour ça que les syndicats d'enseignants ont demandé que les programmes soient revus et allégé pour l'an prochain. Afin d'intégrer le fait que l'enseignement a été chamboulé depuis plus d'un an, le ministère a accepté et ces prochaines semaines vont donc se mettre en place des groupes de travail pour réfléchir dans chaque discipline à quel point précis peut être retiré des programmes pour laisser en fait un peu plus de temps au rattrapage de ce qui n'a pas pu être enseigné pendant ce Covid. En parallèle, le programme de révision du bac 2022 devrait lui aussi être allégé.
Mathieu Charrier pour Europe 1.
C'est un procès très attendu qui s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Chambéry, celui de Nordal Lelandais, jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.
Le jeune militaire de 23 ans avait disparu à Chambéry 5 mois avant Maëlys, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Dès cet après-midi, la cour s'intéressera à la personnalité et au parcours de ce maître chien de 38 ans. Une personnalité clivée à tendance perverse, d'après les psychiatres qui l'ont expertisé, Marion Dubreuil.
Oui, d'après ses anciennes compagnes, Nordal Lelandais a une double personnalité, prévenant et manipulateur. De son expérience au sein de l'armée, Nordal Lelandais a conservé la méthode. Le trentenaire compartimente sa vie, deux téléphones portables, l'un pour ses relations sexuelles, l'autre pour sa famille et ses proches. La nuit du meurtre d'Arthur Noyer, l'accusé a d'ailleurs bien pris soin d'éteindre ses deux téléphones. Le mobile est à chercher du côté de la toute-puissance. Nordal Lelandais est intolérant à la frustration. Le 11 avril 2017, il a été conduit par deux partenaires sexuels. Le maître chien se rend donc à Chambéry avec une envie à assouvir, d'après les magistrats instructeurs. On le voit rôder sur les images de vidéosurveillance entre 23h et 3h du matin, à pied ou en voiture, lentement. Arthur Noyer est une proie vulnérable. Le jeune homme de 23 ans est fortement alcoolisé quand il croise sa route. Pourquoi est-il monté dans sa voiture? D'après un co-détenu à qui Nordal Lelandais s'est confié, c'est parce que le jeune homme de 23 ans a finalement refusé ses avances, qu'il l'a frappé à mort avec une pierre.
Marion Dubreuil, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Chambéry.
Il est 6h07 sur Europe 1. Cette information que nous vous révélons ce matin, une nounou est accusée de violence physique et sexuelle sur un enfant de 5 ans dont elle avait la charge.
C'est une affaire qui a démarré en juillet 2020 par le simple signalement d'un témoin dans la rue. Il a vu le petit garçon violemment pris à partie par sa nourrice devant un manège de la Baule. D'autres violences présumées ont été découvertes ensuite, cette fois à caractère sexuel, et sur lesquelles la justice va se pencher, Chloé Triomphe.
Oui, ce témoin, stupéfait par la violence de la scène, a tout de suite réagi, comme en témoigne l'avocat de la famille du petit garçon, maître Oudy Bloch.
Il y a eu des hurlements contre cet enfant qui était assis sur un banc et recroquevillé sur le banc, et comme il ne réagissait pas à ces provocations, il y a eu des coups portés, des fessées, des claques sur les cuisses, des pincements très forts. La nourrice l'a poussé violemment contre le banc, et tout ça a été suffisamment violent pour qu'il y ait un signalement fait à la police.
Au départ, l'enquête s'oriente vers une simple convocation devant le tribunal pour violence. Mais le petit garçon se confie, il parle de sévices sexuels et il faudra la persévérance de sa mère et de son conseil pour réorienter l'enquête pour agression sexuelle lors d'un premier rendez-vous d'audience en avril dernier.
Les déclarations de cet enfant sont constantes, des déclarations auprès de sa mère, auprès de trois pédopsychologues. Nous savions qu'il s'agissait de pénétration et donc de viol.
L'affaire a été suffisamment prise au sérieux par le maire puis par le préfet qui sont intervenus pour que la nounou mise en cause soit suspendue de ses autres emplois dans plusieurs écoles et dans une EMJC. Et la justice doit désormais statuer sur la demande de requalification des faits en viol sur mineur.
Chloé Triomphe pour Europe 1. Aux États-Unis, la bataille entre Apple et l'éditeur de jeux vidéo Epic Games débute aujourd'hui devant les tribunaux. Epic Games, qui produit notamment le jeu Fortnite, dénonce les entraves à la concurrence pratiquées par Apple, notamment sur son App Store.
Allez, un peu de musique pour terminer ce journal. Vous ne connaissez peut-être pas ce groupe, vous allez le découvrir. Il s'appelle 47 Terres. C'est un groupe de trois amis d'enfance d'une vingtaine d'années. Et leurs chansons sont écoutées des millions de fois sur les plateformes en ligne.
Et Patrick Bruel est même apparu dans un de leurs clips. 47 Terres vient de sortir son deuxième album, qui est déjà un carton. On les découvre avec Angèle Châtelier.
Au milieu d'un sommeil noir, si j'arrive pas à me barrer, vas-y réveille-moi. J'adore le soleil noir tant que la belle vie me guette et veille sur moi.
47 Terres n'est pas qu'un groupe de rappeurs.
On s'est mis à danser sans savoir le faire. On a libéré nos pensées sans savoir les termes.
Le trio vient de Bailly en Île-de-France et à la maison, leurs parents écoutaient du métal. Dans leurs oreilles, à eux, il y a autant du rock que de la pop. Justin Bieber, Vianney, Dua Lipa. C'est ce mélange des genres qui a fait leur succès.
On a commencé avec des freestyles, donc je comprends qu'on nous ait mis dans cette catégorie de rappeurs. Mais en fait, nous, ce qu'on aime faire, tu vois, dans l'album, là, par exemple, il y a un morceau Avec toi, c'est uniquement de la pop.
Avec toi.
toi, j'ai remporté la victoire de ma vie.
Donc en fait, on n'est pas du tout dans une catégorie vraiment.
Et ça marche. Après s'être fait connaître sur les réseaux sociaux, leur premier album s'est vendu à 50 000 exemplaires. Leur concert affiche complet. Aussi parce que leurs paroles sont positives. Ici, ils nous invitent à réaliser nos rêves.
Tu verras que la vie est fêlée. Si tu veux vivre tes rêves, alors c'est maintenant, vas-y, fais-le.
Leur rêve à eux de vivre de la musique s'est réalisé. Le nom de leur nouvel album, d'ailleurs, l'évoque Légende. Clin d'œil au concept de légende personnelle, qui consiste à trouver la destinée de sa vie.
Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ? Qu'est-ce qu'on attend pour briller ? Qu'est-ce que le temps nous livre ?
47 airs racontés par Angèle Châtelier pour Europe 1.
Et voilà pour terminer le journal signé Émilie Dez. Il est 6h11. Lennec Monnier m'a rejoint pour le journal des sports et on commence par ce match plein de rebondissements hier entre Monaco et Lyon.
Match de clôture de la 36e journée de Ligue 1 de football, duel au sommet entre le 3e et le 4e qui jouent leur avenir européen. Après avoir été mené, Lyon a fini par gagner 3-2 sur le Rocher, mais on a senti beaucoup de tension pendant la rencontre. 5 cartons rouges distribués, dont 3 pour les Lyonnais. L'entraîneur Rudy Garcia a vu rouge lui aussi hier soir.
La seule chose vraiment dommageable, c'est que je vous pose une question. Quel est l'intérêt des joueurs de l'Olympique Lyonnais à la fin du match, quand on a gagné chez un concurrent direct, de prendre des rouges après le coup de sifflet final ? Aucun. Donc la provocation, elle vient de chez eux, par des joueurs en plus, que bien évidemment, qui ne sont pas titulaires, des jeunes. Et donc c'est anormal qu'on ait pris des rouges, alors qu'on n'a rien fait, on n'a même pas riposté. Voilà, on se retrouve pour Lorient avec 3 rouges aujourd'hui, plus la sortie de Jason Denayer. Donc il va falloir qu'on trouve un 11, et surtout des défenseurs pour le match de Lorient.
Rudy Garcia avec Stéphane Frangy. De la pression parce qu'il ne reste que 3 journées à disputer et que Monaco est pour l'instant 3e avec un point d'avance sur l'OL.
En rugby, La Rochelle est entrée dans la cour des grands.
Des Rochelais impressionnants face au Leinster, l'un des plus gros poissons du rugby européen avec ses 4 titres continentaux. La Rochelle l'a emporté 32-22 et retrouvera Toulouse en finale. On écoute Pierre Bourgarit, il est à l'honneur de La Rochelle.
C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, on sait très bien que ces 80 minutes vont être très 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 dures. Ça va être un très très gros match. Donc, bien sûr qu'on va se le garder dans la tête. Mais après, on a quand même le top 14 qui va enchaîner derrière. Et il nous reste une grosse fin de championnat à finir. Après, oui, bien sûr, cette étoile. Je pense que tout ce qu'on est petit, on le regarde à la télé. On se dit, putain, ça serait énorme un jour d'avoir l'opportunité de jouer ces matchs-là. Aujourd'hui, on l'a. Donc voilà, il faudra pas galvauder ça. Et il faudra le prendre par le bon bout. Et voilà.
Le talonneur Rochelet, Pierre Bourgarit avec Loïc Folliot. C'est la 6e fois de l'histoire que 2 équipes françaises se retrouveront en finale face à face. Les Toulousains sont en quête déjà d'un 5e sacre européen.
Et il y aura du public pour ce match.
10 000 spectateurs à Twickenham. Le monde du sport reprend vie peu à peu, puisqu'au tournoi de tennis de Madrid qui débute aujourd'hui, 4 800 personnes par session seront autorisées et que Jean-Michel Blanquer a bien confirmé hier soir que le public serait aussi de retour à Roland-Garros dans une limite de 1 000 personnes par cours.
Et on y sera, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. La moto, pas de victoire française hier, mais plutôt une grosse frayeur.
Oui, avec Fabio Quartararo qui était parti en pôle hier à Jerez en Espagne. Le pilote niçois pouvait prétendre à une 3e victoire, mais à mi-course, il s'est effondré, son rythme tout du moins. Il a terminé 13e. Il s'est en fait blessé au bras et Axel May a pris des nouvelles.
C'était de pire en pire et à la fin, voilà, j'avais plus aucune force et c'était inconduisible, c'était très dangereux. Mais voilà, je me suis battu pour ces 3 points et je pense que c'était très important.
Fabio Quartararo qui a peut-être une tendinite ou ce qu'on appelle un syndrome des loges. C'est un mal qui touche les motards et les personnes pratiquant la planche à voile.
Merci à vous, Lénaïque Monnier, pour les sports, 6h14.
Europe 1.
Et c'est l'heure d'accueillir mon invité inattendu du jour. Voici une femme engagée pour défendre la cause des animaux avec la fondation 30 millions d'amis. Mais c'est dans un univers plutôt surprenant que nous l'avons trouvé. Bonjour à vous.
Bonjour, je suis Trinity, je suis streameuse et je joue aux jeux vidéo en direct sur internet.
Bonjour à vous Trinity, c'est donc votre surnom hein, de gameuse sur les réseaux, sur cette plateforme Twitch aussi où vous avez votre propre chaîne. Passionnée de jeux vidéo, première femme testeuse de jeux vidéo aussi et désormais donc ambassadrice pour la fondation 30 millions d'amis qui cherche sans doute grâce à vous à toucher un nouveau public. A tout de suite, on en parle dans un instant.
Unis sous une seule et même bannière pour lutter contre la souffrance animale. Ils sont les justiciers du cœur.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h17 et si vous n'êtes pas un adepte des jeux vidéo ou des réseaux sociaux, vous ne connaissez peut-être pas mon invité inattendu du jour, mais vous allez la découvrir. Sur Internet, elle rassemble une communauté de plus de 160 000 personnes qui la suivent. Trinity, c'est votre surnom donc sur Internet. Priscilla, votre vrai prénom. Vous avez 30 ans et vous êtes donc une gameuse très en vue et devenue justicière du cœur, c'est-à-dire ambassadrice pour la fondation 30 millions d'amis. Ça consiste en quoi ?
Alors, les Justiciers du Cœur, c'est une sorte de collectif de plusieurs streamers, on est 6, qui marchaient main dans la main avec la Fondation 30 millions d'amis. L'objectif, en fait, c'est réellement de sensibiliser les plus jeunes, qu'on peut toucher justement via le jeu vidéo, les sensibiliser à la cause animale.
Une poignée d'hommes et de femmes courageux ont choisi d'allier leurs forces et leurs réseaux pour se battre ensemble et leur rendre justice.
Comment vous en êtes venue à devenir comme ça ambassadrice pour 30 millions d'amis ? C'est eux qui sont venus vers vous ou vous étiez déjà très engagée sur ces sujets ?
Ben, un peu des deux, en fait, ils sont venus vers moi, justement parce que j'étais très engagée. Là, maintenant, j'ai 30 ans, mais ça fait déjà depuis mon adolescence que je suis très touchée par la cause animale et par ces sujets-là et que je mène divers combats. Et du coup, quand 30 millions d'amis a voulu faire une campagne sur Twitch, si on peut appeler ça une campagne, ben, du coup, j'ai été directement contactée.
Voilà, vous êtes sur cette plateforme de vidéos qui rassemble des centaines de milliers de fans de jeux vidéo. Vous êtes 6 ambassadeurs comme ça, choisis par 30 millions d'amis. Et à vous 6, vous réunissez quand même 3 millions de personnes sur Internet. Ça fait du monde que vous pouvez toucher.
Oui, tout à fait, ça fait du monde. Puis surtout, ça permet, je pense, à la Fondation, qui est quand même connue justement de ceux qui ont mon âge ou qui sont plus âgés, qui a été très connue via l'émission, qui maintenant s'est arrêtée. Ça va vraiment permettre de toucher une toute nouvelle population et de refaire un lien entre cette Fondation et les nouvelles générations qui arrivent.
Ouais. Pour s'adresser comme ça à la jeunesse, pour faire passer les messages, il faut des gens comme vous qui connaissent les codes des réseaux.
Je sais pas si c'est de dire qu'il faut connaître les codes des réseaux, c'est juste qu'on a cette capacité-là en fait à avoir ce lien. Parce qu'on tous les jours, on communique avec notre communauté, on est proche de notre communauté. Et du coup, notre communauté a aussi tendance à nous écouter plus facilement. Et on peut initier des débats aussi beaucoup plus facilement, étant donné qu'on fait du direct. Donc je pense que c'est surtout ça le plus important. C'est pas tant connaître les codes, mais c'est avoir ce lien et cette relation avec les gens qui va permettre de faire passer un message.
Alors quels sont les messages que vous allez faire passer et sous quelle forme finalement ? Ça veut dire qu'en jouant un jeu vidéo, en même temps, vous parlez d'autre chose et vous allez comme ça parler de la défense du bien-être animal ?
Bah, c'est un petit peu ça, moi. C'est ce que déjà je fais au quotidien parce que je fais pas que du jeu vidéo, je discute aussi. Donc effectivement, on peut aborder des sujets divers et variés en discutant. Ça va être aussi l'occasion d'organiser tout au long de cette année des événements un petit peu plus majeurs qui permettront de sensibiliser. Si on a aussi lancé cette campagne maintenant, c'est pas par hasard. Faut savoir que en France, on est quand même les rois de l'abandon et qu'on arrive bientôt en été et que du coup c'était vraiment important pour nous de pouvoir lancer ça avant l'été pour essayer de sensibiliser encore une fois au maximum et limiter comme on peut les abandons et sensibiliser aussi par rapport à l'adoption, comment adopter, donner les bons gestes aux gens et tout ça passe par du dialogue.
Vous allez aussi recueillir des fonds pour la Fondation 30 millions d'amis ?
On aimerait bien mais je ne peux pas trop en dire sinon je vais gâcher toutes les surprises.
En tout cas, le lancement a bien marché. C'était la semaine dernière, coup d'envoi suivi par 400 000 personnes en ligne. Et le site internet qui a été dédié à vous six, lesjusticiersducœur.com, a carrément explosé en vol le jour du lancement avec trop de connexions pour ce site. C'est bon signe, ça veut dire que vous sentez toute cette communauté de gamers, de fans de jeux vidéo réceptifs à ces messages ?
Complètement, on sent que ça fédère. C'est pas la première fois hein, que la communauté du jeu vidéo montre de l'engouement pour une cause. Moi, j'ai notamment participé à The Event pendant 3 ans, qui est un gros événement qui récolte des fonds pour diverses associations. Il y a eu récemment l'event Speedon, qui a aussi récolté des centaines de milliers d'euros. Donc, on a une communauté qui est extrêmement soudée et qui est capable de se fédérer vraiment derrière une cause. La cause des animaux, je pense, était celle qui nous manquait. Dans les gros événements.
C'est vrai que ce monde des jeux vidéo devient aussi un moyen de lever des fonds pour des grandes causes. Vous citiez The Event qui avait battu des records, on s'en souvient, il y a quelques mois, on en avait parlé sur Europe 1. Pourtant, on perçoit souvent ce monde des jeux vidéo comme un monde un peu fermé, chacun derrière son écran, et surtout vivant un peu dans le monde virtuel. Finalement, vous n'êtes pas complètement déconnecté de la réalité, c'est ça que ça montre aussi.
Je pense qu'on est même complètement connecté à la réalité. C'est une vieille image qu'on a du joueur de jeux vidéo complètement déconnecté, où on montrait des cas extrêmes de personnes qui étaient complètement associables, mais surtout qui transparaissaient plutôt des troubles émotionnels. Nous, on fait partie d'une grosse communauté où on discute tous ensemble et on est très très ancré dans la réalité. On a des discussions bien réelles et des émotions aussi bien réelles. Donc non, c'est un vieux cliché, mais qui tend à un peu s'arrêter de moins en moins. Ce cliché-là est présent par rapport aux jeux vidéo, parce que justement ces dernières années on a prouvé qu'on était là, qu'on pouvait s'engager et qu'on n'était pas juste justement des geeks derrière nos écrans.
Exactement, et vous êtes désormais donc justicière du cœur, c'est presque un nom de super-héros, pour défendre la fondation 30 millions d'amis sur ces réseaux sociaux liés aux jeux vidéo. Merci à vous Trinity, ou Priscilla.
Merci à vous.
C'est selon. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Europe 1. Sébastien Krebs.
6h23 sur Europe 1, c'est la première étape du déconfinement aujourd'hui avec la fin des restrictions de déplacement. Attention, le couvre-feu en revanche est maintenu à 19h. Nordal Lelandais pour la première fois devant une cour d'assises, il comparaît pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. C'était 3 mois avant Maëlys en avril 2017. Et puis la fin de Bridgestone, les salariés de l'usine de Béthune vont recevoir leur lettre de licenciement cette semaine. L'usine de pneumatiques ferme officiellement aujourd'hui. Sur les 863 employés, seuls 200 ont retrouvé un travail ailleurs en CDD ou en CDI.
Europe 1.
Et à 6h24, nous ouvrons la partition d'Omblin Roche avec un hommage ce matin. Omblin, hommage à Dalida qui nous a quittés le 3 mai 1987.
C'était un dimanche. Sébastien, elle est découverte par son amie et habilleuse Jacqueline Pichal, allongée dans son lit à l'étage de sa maison nichée sur les hauteurs de la butte Montmartre à Paris. Tout près d'elle, ce message d'adieu, la vie m'est insupportable, pardonnez-moi.
Comme prima, tu me donnes tant de joie, que personne ne m'en donne comme toi.
Dalida avait 54 ans, une vie dédiée à son métier, entre les scènes, les chambres d'hôtel, des valises qu'on fait et qu'on défait.
Le trac, la fatigue, grâce au public, Dalida oubliait ses chagrins et ses tourments, mais elle se montrait de plus en plus lasse de cette existence où régnait un vide qu'elle ne pourrait plus jamais combler, celui de la maternité. Les hommes qu'elle a aimés ont disparu, les uns après les autres, comme si une malédiction planait. Le premier, à la fin des années 50, Lucien Maurice, le responsable de la programmation musicale de Europe numéro 1, lui apporte la gloire. Dalida chante Bambino, mais ne rêve qu'une seule chose, que d'une chose, fonder une famille.
Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino.
10 ans plus tard, c'est le chanteur italien Luigi Tenco qui partage la vie de Dalida.
Un jeune homme brun, ténébreux, à l'âme torturée comme la sienne, il ne supportera pas l'échec après l'interprétation désastreuse d'une de ses prestations en direct sur la chaîne italienne La Rai. Quant à sa relation tumultueuse avec l'excentrique Richard Chanfray, elle prendra fin au début des années 80. Dalida va se laisser petit à petit ronger par la dépression.
Et c'est à cette époque que son répertoire évolue.
Oui, elle laisse de côté les chansons dansantes qui ont fait son succès en pleine vague disco.
J'attendrai.
En 1983, Dalida rentre en France après une tournée d'un an et prépare son nouvel album.
Elle travaille avec son frère Orlando qui s'occupe de lui trouver des nouvelles chansons. Pendant ce temps, le compositeur Jeff Barnell et le parolier Michel Jouveau écrivent un nouveau morceau qu'ils imaginent au départ pour Michel Sardou ou Johnny Hallyday. C'est Jeff Barnell qui pense finalement à Dalida. Ils se connaissent très bien, cela fait 10 ans, et qu'il lui propose des chansons, notamment Salma ya Salama, dont le 45 tours s'est vendu par milliers en 1977.
Le hic, c'est que Dalida n'en veut pas de cette chanson.
Et elle va finir par se laisser convaincre par Orlando, séduit par la maquette qu'il a écoutée à plusieurs reprises. Dalida enregistre sans enthousiasme ce titre qui, 4 ans plus tard, va s'avérer prémonitoire.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs.
Très bonne année. Oui. Mourir sur scène. Dalida, qui donc avait été écrite pour Michel Sardou ou Johnny Hallyday.
À la base, oui, quand le parolier Michel Jouvaux l'a écrite, l'album c'est Les Petits Mots, et la chanson va connaître pas un succès, pas tout de suite, elle deviendra plus tard l'un des emblèmes de son répertoire. Dalida nous a quittés il y a 34 ans.
C'était la partition signée Omblin Roche. Merci Omblin, à demain.
Merci.
Laurent Cabrol, c'est à vous pour la météo.
Eh bien, il fait froid ce matin, moins 3 à Charleville, moins 2 en Sologne, moins 2 à Beauvais. Vous voyez que ce n'est pas très chaud. 1 à Clermont-Ferrand, 4 à Lille, 5 à Rennes, 6 à Paris et 10 degrés à Marseille. Il fait froid, mais le temps est en train de changer. Le vent vient du sud-ouest maintenant et ce sont des perturbations atlantiques qui vont nous concerner tout au long de la semaine. Alors, un jour, il y en aura, un jour, il n'y en aura pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore. Elle arrive, est actuellement sur les îles Britanniques. On la voit sur le Devon, sur la Cornouaille et elle va arriver sur les côtes de la Manche dans le courant de l'après-midi et de la soirée, où il pleuvra, alors qu'à partir de ce soir, il pleuvra sur les côtes de la Manche et la mer du Nord, et ces pluies vont gagner les terres dans le courant de la nuit. Nous en reparlerons. Voyons pour aujourd'hui donc partout ailleurs, nous aurons du soleil, excepté sur ces fameuses côtes dont je viens de parler, Bretagne, Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Sur la région parisienne, la Champagne-Ardenne, la vallée de la Loire, un petit voile avec une impression quand même très agréable. Il fera 18 à Paris, hier il n'en faisait que 14 ou 15. Vous voyez que les températures montent, d'ailleurs d'une manière générale, les températures se situeront aujourd'hui entre 16 et 19 degrés, sous un ciel le plus souvent clément.
Merci Laurent Cabrol et à rendez-vous tout à l'heure juste avant 7h.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1, soyez les bienvenus tout de suite, un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
6h30.
J'ai des collègues, profs de maths, de 3e. Qui n'ont aucun élève en classe virtuelle proposé. Plus ils sont grands chez nous, et plus le décrochage est grand aussi.
Des professeurs soucieux avant de retrouver leurs élèves ce matin en classe, l'été paraît déjà tout proche après une année scolaire chamboulée. Un parti politique ébranlé. Après l'alliance avec La République En Marche en PACA, les Républicains apparaissent très divisés. C'était aussi le but d'Emmanuel Macron. Et puis une mêlée franco-française en finale européenne de rugby, événement dans le monde du sport. La Rochelle et Toulouse seront face à face.
Comment agir plus vite, expulser plus rapidement les occupants illégaux de logements squattés et restituer les biens à leurs propriétaires? Témoignage dans ce journal et dans 10 minutes, les réponses de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, est mon invitée.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un mois d'absence entre vacances et cours en ligne et voilà les collégiens et lycéens de retour en classe. Cela se fera en demi-jauge dans les lycées ainsi que pour les 4e et 3e des départements où le virus circule le plus. Alors au-delà de l'aspect sanitaire, se pose la question de l'enseignement. Où en sont les élèves aujourd'hui et comment mettre à profit les 2 petits mois qu'il reste avant les vacances d'été?
À Strasbourg, des profs se sont réunis ce week-end devant le rectorat pour obtenir des réponses. Reportage de Mélina Fachin.
Dans cette assemblée de professeurs, tous appréhendent la fin de l'année scolaire. Les cours à distance ont augmenté les inégalités, estime Thomas, prof de PS dans un collège en REP.
J'ai des collègues, profs de maths de 3e, qui n'ont aucun élève en classe virtuelle proposé. Plus ils sont grands chez nous, et plus le décrochage est grand aussi. Au-delà des conditions sanitaires, c'est ça qu'on va avoir du mal à rattraper sur la fin d'année.
Les conditions sanitaires et le protocole renforcé interrogent au contraire Francis, prof d'histoire géo.
On se demande comment ça va se passer, si le protocole est respecté à la lettre, avec la fermeture d'une
classe au premier cas positif. Pour les tests des élèves, ça reste l'inconnu.
L'inconnu pour Olivier, prof de SVT en 3e, c'est surtout le brevet fin juin.
Sur les écrits, ça va aller parce qu'on a fait des examens blancs, on en a fait deux, ils sont assez bien préparés. Le problème, ça va être sur l'oral. On aurait dû vraiment les préparer à cet exercice, on ne l'a pas fait. C'est une épreuve qu'ils ne vont pas bien réussir, c'est sûr.
Et puis, au-delà de cette année scolaire, on pense déjà à la suivante, notamment à l'orientation pleine de points d'interrogation des jeunes qui terminent le collège dans 2 mois. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Du nouveau aujourd'hui pour nos déplacements qui ne sont plus limités à 10 km. L'attestation disparaît en journée, mais elle demeure après 19h. Le couvre-feu étant maintenu à cet horaire pour un peu plus de 2 semaines.
Allez, on en vient à la bombe politique du week-end. L'alliance entre la liste des Républicains et celle de La République en marche pour les élections régionales en région sud. PACA.
Oui, conséquence directe, le parti de droite retire son investiture au président sortant, Renaud Muselier, et ce n'est que le début d'une déflagration chez les Républicains. Hélène Terzian.
Quand l'un pactise, d'autres se désolidarisent. L'alliance entre Renaud Muselier et la majorité, Julien Aubert n'en veut pas. Tête de liste LR dans le Vaucluse, il songe à retirer sa candidature.
Je suis fidèle à ce que j'ai toujours dit à mes électeurs. Je considère que la politique qui est menée par ce gouvernement ne va pas dans le bon sens. J'ai plein de divergences sur le fond. Et ce serait factice pour garder un fauteuil, de faire comme si on pouvait être ensemble à Marseille et s'opposer à Paris. C'est tout ce que les gens détestent et c'est ce qui nourrit d'ailleurs la désaffection démocratique.
Le séisme est local, mais certains redoutent une contagion au second tour dans d'autres régions, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, voire Grand Est. Damien Abad, chef de file des députés LR, craint les répercussions pour la présidentielle.
On ne peut pas faire de la confusion et de la collision avec La République en marche, alors que l'objectif de la droite doit être de porter un candidat à l'élection présidentielle pour incarner une alternance à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Renaud Muselier le sait très bien que cette alliance-là aura des conséquences au niveau national et qu'on ne peut pas vouloir à la fois l'investiture du parti des Républicains et vouloir copiner avec La République en marche.
Une stratégie de l'exécutif pour fracturer la droite républicaine, regrette un député LR, et organiser la recomposition politique pour 2022.
Et notez que celui qui est chez les Républicains, président de la commission d'investiture, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, sera au micro d'Europe 1, invité de Sonia Mabrouk à 8h15.
6h35 sur Europe 1, Nordal-Lelandais aux assises pour un premier procès à partir de ce matin à Chambéry.
Lui qui est accusé d'avoir tué la petite Maëlys à la fin de l'été 2017, comparaît pour une autre affaire, c'était quelques mois plus tôt, le meurtre du caporal Arthur Noyer. Nordal-Lelandais parle d'une bagarre qui a mal tourné après une soirée alcoolisée. Voici l'état d'esprit des parents d'Arthur Noyer à quelques heures du début de ce procès.
Nous sommes prêts, ça va être une épreuve supplémentaire, c'est évident. On attend que justice soit faite. Voilà, c'est tout.
Vous appréhendez de voir Nordal-Lelandais ?
Pas du tout. Je n'appréhende pas de voir l'autre, et j'espère que celui qui appréhende le plus, ce sera le bon.
Vous dites l'autre en parlant de Nordal-Lelandais.
Je dis depuis le début, je dis l'autre, oui, effectivement.
Didier Noyer avec Jean-Luc Bougeon, page spéciale en direct de Chambéry, dans le journal de 7h tout à l'heure, avec nos envoyés spéciaux pour suivre ce procès.
C'est un cauchemar que vivent des familles enfermées dehors, à la porte de chez elles, quand des squatteurs s'installent en leur absence et deviennent quasiment indélogeables. Situation qu'a vécue pendant plus de 6 mois Marie-Françoise, après la mort de sa mère, c'était en septembre dernier.
Un jugement a eu lieu le 3 novembre, qui a décrété une expulsion immédiate, sans délai. Le jugement leur a été signifié par huissier. Ils ne sont pas partis. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Psychologiquement, c'est très très dur. Et puis on a l'impression de donner des coups dans l'air en fait. Finalement, on s'est débrouillé tout seul. On a fait une manifestation et c'est la pression publique qui a un peu effrayé les squatteurs. Donc ils sont partis. Puis je ne vous dis pas dans quel état est la maison. C'est impressionnant. Ils ont laissé des vêtements, des tapis, enfin des tas de choses. Mais si vous voulez, on ne peut pas disposer, on ne peut pas enlever leurs affaires. Il faut que ce soit encore une décision de justice qui nous donne l'autorisation de vider la maison.
On entend ce témoignage recueilli par Diane Berger pour Europe 1. Alors face aux plaintes fréquentes des propriétaires, une loi votée en décembre prévoit l'expulsion des squatteurs en 72 heures. Mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas, pas plus que les dernières propositions d'Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement, que critique l'avocat en immobilier Romain Rossilandi.
La ministre a annoncé qu'elle allait créer un observatoire des squats. Bon, c'est une bonne chose, mais évidemment, les victimes de squats ne veulent pas d'un observatoire. Ils veulent le concours de la force publique. Ils veulent que, quand on porte plainte pour un squat, que la police intervienne immédiatement et procède à l'interpellation des squatteurs. La réforme aujourd'hui qu'on nous propose, c'est qu'on laisse le soin au préfet d'examiner la situation du propriétaire et du squatteur dans un délai de 48 heures. C'est matériellement impossible. J'ai des dossiers de 2019, tenez-vous bien, qui sont toujours pas exécutés aujourd'hui parce que le préfet n'a toujours pas donné le concours de la force publique. Donc s'il le donne pas en 18 mois, voire en 2 ans, comment va-t-il faire pour le donner en 48 heures ?
Maître Romain Rossi l'en dit. Et la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, vient répondre ce matin sur Europe 1 à toutes ces préoccupations que vous venez d'entendre. Elle est avec nous, on la retrouve dans une petite minute. Le temps de la page des sports.
Et d'abord, le temps de se féliciter du résultat de la finale de la Coupe d'Europe de rugby qui n'a pas eu lieu, mais dont on peut affirmer qu'elle sera remportée par un club français. Puisque La Rochelle, après sa victoire sur le Leinster, sera face à Toulouse dans 3 semaines, Axel May.
Oui, 6 ans après Toulon-Clermont, 6 ans aussi après la dernière victoire française en Coupe d'Europe, Toulouse et La Rochelle vont se disputer le titre européen. Les Rouges et Noirs sont ceux qui ont le plus d'expérience. Ils viseront en effet une 5e couronne, leur manager Hugo Mola.
La guerre des étoiles est lancée et j'espère qu'on aura la capacité à mettre la 5e étoile dans notre... Voilà, sur notre maillot.
En face, La Rochelle s'apprête à vivre sa première finale de la Grande Coupe d'Europe après avoir battu hier les Irlandais du Leinster. Quadruple vainqueur de l'épreuve dans une enceinte vide, huis clos sanitaire oblige, mais avec des supporters venus par centaines devant le stade. Le troisième ligne rochelais, Greg Aldrit.
Cette sensation de sentir la foule avec nous, c'est vrai que ça faisait un moment que ça nous manquait. C'est quelque chose d'énorme, une finale de Champions Cup, mais c'est pas assez quoi. On veut plus et on veut aller gagner ce titre.
Une finale qui aurait même dû être jouée en France, puisqu'initialement c'est la ville de Marseille qui devait l'accueillir, avant que les restrictions sanitaires ne contraignent les organisateurs de la Coupe d'Europe à la déplacer à Twickenham, où jusqu'à 10 000 spectateurs seront en principe autorisés le 22 mai.
Axel May pour Europe 1. Et puis en football, hier soir, 35e journée de Ligue 1 à Monaco. Lyon, qui était mené à la mi-temps et a fini à 10 contre 11, a su s'imposer tout de même 3-2.
Le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 6h39.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et la ministre du Logement est donc sur Europe 1 ce matin. Bonjour Emmanuelle Wargon.
Bonjour Sébastien Krebs.
Merci d'être avec nous pour évoquer donc ce sujet qui donne lieu, on l'a entendu, à des situations cauchemardesques pour des propriétaires, des logements squattés par des inconnus et des procédures d'expulsion qui prennent parfois des mois, voire des années. On entendait ce témoignage dans le journal. Vous annoncez, Emmanuelle Wargon, la création d'un observatoire des squats. En quoi cela va changer la situation de cette dame Marie-Françoise ?
En fait, moi, je partage l'indignation des propriétaires qui se retrouvent face à une situation insupportable de squat de chez eux. Quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ce sujet, en fait, était récurrent, qu'il y avait plusieurs dizaines de cas en France sans qu'on sache très bien quand et qu'il fallait faire quelque chose. Et on a changé la loi. La nouvelle loi s'applique depuis le début de l'année. L'observatoire que je souhaite monter maintenant, c'est simplement de savoir comment cette loi est appliquée, vérifier qu'elle est bien appliquée dans tous les cas possibles, mobiliser les préfets et faire en sorte qu'ils agissent rapidement et faire un suivi en fait. Donc c'est pas un observatoire pour le plaisir d'observer, c'est un observatoire pour être sûr que la loi qui permet d'aller plus vite est réellement appliquée.
Et vous entendiez cet avocat, il le dit, cette loi visiblement ne fonctionne pas, n'est pas appliquée. Les préfets n'arrivent pas à examiner en 48 heures les demandes.
Moi, j'ai pas encore rencontré cet avocat, mais vous savez, moi, je suis chaque dossier qui m'est signalé de très près. Mais j'ai eu un premier bilan pour Paris, par exemple. Pour Paris, le préfet a déjà fait 11 expulsions depuis le début de l'année, grâce à la nouvelle loi, des dossiers qui ont été signalés depuis le 1er janvier et qui ont déjà mené à une expulsion. Donc, effectivement, peut-être que parfois, 48 heures, ça ne permet pas de regarder la totalité du dossier, mais c'est géré en quelques jours. Donc, ça va vraiment beaucoup plus vite. Après, on a toutes les situations dans lesquelles des décisions de justice ont été rendues avant le 1er janvier dernier. Et évidemment, ces décisions s'appliquent. Donc en fonction de ce que dit la justice, le préfet accorde ou pas le concours de la force publique sur la base de la décision de justice. Et souvent, les décisions de justice ne lèvent pas la trêve hivernale. Donc on a eu quelques cas comme ça, le dernier était dans le Var, où finalement, il y avait une décision de justice, mais il fallait attendre la fin de la trêve pour pouvoir agir. C'est pour ça que j'ai voulu cette nouvelle procédure qui a été votée et qui permet au préfet d'agir, trêve ou pas trêve.
C'est vrai qu'il y a eu ces affaires très médiatisées, notamment celle de Théoul-sur-Mer, vous la citiez. Et ce témoignage qu'on entendait d'une décision prise le 3 novembre ordonnant expulsion immédiate, signifiée par huissier, et les forces de l'ordre ne se sont toujours pas déplacées plusieurs mois plus tard. Comment on explique ça ?
Alors moi je connais pas cette situation-là, mais je suis tout à fait prête à la regarder comme je le fais à chaque fois qu'un cas m'est signalé. Et les préfets sont mobilisés. Mais dans une situation très comparable, dans le Var il y a quelques jours, qui n'est pas Théoul-sur-Mer, mais qui est dans une autre commune du Var, en fait... la décision judiciaire ne levait pas le bénéfice de la trêve hivernale. Et donc en général, sans délai, ça veut dire sans délai à la fin de la trêve hivernale. Donc là, je connais pas cette décision de justice, donc je peux pas me prononcer. Mais très souvent, c'est ça. Et la fin de la trêve, c'est le 1er juin. Et du coup, le concours des forces de l'ordre pourra avoir lieu à la fin de la trêve. C'est souvent dans ce genre de détails que se niche la difficulté. Mais encore une fois, moi, je comprends les propriétaires. C'est pour ça que j'ai voulu changer la loi. C'est pour ça que je mobilise les préfets. Je les réunis la semaine prochaine. Les 100 préfets de France, on va en discuter. Justement, pour pouvoir avoir un état des lieux, combien de demandes ils ont eu, dans quel délai ils agissent, dans quel cas ils arrivent à expulser, dans quel cas, en fait, il y a une difficulté. Pourquoi ? Comment on fait pour passer de la volonté à la réalité ?
Le constat, c'est qu'on ne sait pas combien il y a de logements squattés en France, combien il y a de dossiers en cours.
Absolument. En fait, pour l'instant, on ne centralise pas les dossiers. Donc, on en connaît un certain nombre parce qu'ils sont médiatisés. Mais on n'a pas de suivi précis. Donc, moi, je ne sais pas vous dire combien de dossiers de squat chez des particuliers nous avons chaque année, en combien de temps ils sont traités, en combien de temps ils sont réglés. Donc c'est pour ça que je crée cet observatoire, pour avoir des données fiables et pour pouvoir voir si on progresse ou pas. Et j'espère bien qu'on aura progressivement moins de dossiers de squat au fur et à mesure que les squatteurs se rendront compte que de toute façon, on agit rapidement.
Alors l'observatoire qui est lancé est donc cette nouvelle loi que vous citiez et qui donne 48 heures au préfet pour examiner la situation à la fois du propriétaire et du squatteur et de trouver une solution de relogement en l'espace de 48 heures, ce qui semble le plus compliqué. Est-ce que dans ces dossiers, Emmanuel Wargon, la priorité doit être, selon vous, de libérer le logement squatté, de le rendre à ses propriétaires ou bien de reloger les squatteurs ?
Pour moi, la priorité, c'est de rendre le logement aux propriétaires. Après, il est important de proposer une solution au moins d'hébergement temporaire aux squatteurs si, par exemple, il y a des enfants, ce qui se produit dans un certain nombre de cas. Ce n'est pas de la responsabilité des enfants, les agissements des parents. Et remettre des enfants à la rue, c'est difficile. Donc il faut trouver des solutions d'hébergement, mais la priorité, c'est le retour du bien à son propriétaire légitime.
Certains estiment que la loi actuelle « protège trop » entre guillemets les squatteurs.
Mais la loi qu'on a fait voter, que moi j'ai proposée et qui a été votée en urgence l'année dernière, c'est une loi qui précisément protège les propriétaires. Sur tout ce qui est squat chez des particuliers, je pense qu'il faut vraiment protéger les propriétaires, c'est ce que je m'emploie à faire. Tous les dossiers qui m'ont été signalés ont fini par être réglés, pas toujours en 24 ou en 48 heures, mais ils se sont réglés. Là, on a donné les moyens au préfet de ne pas attendre la justice, ce qui est un choix très fort, hein, puisqu'on n'a plus besoin d'une décision judiciaire pour expulser. Et maintenant, mon rôle, c'est d'être sûr que dans les 100 départements de France, les préfets appliquent cette loi, ils l'appliquent vite. Et je leur fais confiance parce que pour avoir échangé avec beaucoup de préfets sur beaucoup de situations, c'est bien leur objectif. Parfois, on a besoin d'établir la réalité des faits, ça prend un peu plus que quelques jours. Mais encore une fois, dans les cas parisiens, là, en 3 mois, 11 expulsions. Et ça n'aurait jamais été possible dans la procédure judiciaire précédente.
Il ne faut pas, selon vous, alourdir les sanctions visant les squatteurs ?
En fait, on vient de les alourdir, hein, puisqu'elles sont passées de 1 an de prison maximum et 15 000 euros d'amende à 3 ans et 45 000 euros d'amende. Ça vient d'être alourdi dans la loi sécurité globale, justement, parce que sinon on était dans une situation un peu paradoxale où le vol était plus pénalisé que le squat de résidence chez un particulier. Donc nous avons aligné les deux et on a durci très fortement les sanctions.
Cette famille disait tout à l'heure qu'ils avaient dû organiser une manifestation devant la maison pour maintenir la pression et obtenir sous la pression de la rue, finalement, que les squatteurs quittent le logement faute de concours de la force publique à ce moment-là. Est-ce que le risque de voir ces procédures traîner, ce n'est pas que ces familles finalement se fassent justice elles-mêmes ?
Et moi, je suis convaincue que ces procédures doivent aller vite. Je suis convaincue qu'il faut permettre aux propriétaires de reprendre la jouissance normale de sa propriété. D'où l'idée de mobiliser les préfets vite. Dans le cadre de la nouvelle loi, ça ne prend plus des mois, ça prend quelques jours, potentiellement quelques semaines, mais pas plus. C'est ça que je veux mieux évaluer dans la réalité avec cet observatoire. Mais je suis d'accord avec vous, des procédures qui sont trop longues font potentiellement monter la tension et on ne peut pas se faire justice soi-même en France. Donc c'est important que ce soit les préfets qui agissent vite avec le concours de la force publique.
Ils en ont les moyens ?
Bien sûr. Après, peut-être que l'intervention se fait pas dans les 5 minutes qui suivent la demande. Il fait aussi au préfet de définir dans quelles conditions l'intervention peut avoir lieu. Mais ça, c'est le métier des préfets. Ils savent faire avec les services de police, bien sûr, ou de gendarmerie.
Les résultats de cet observatoire seront connus quand ? Les chiffres, le nombre de dossiers en cours,
D'ici quelques semaines, le temps de remonter tout ça. D'ici quelques semaines, au plus tard, d'ici fin juin.
Merci à vous, Emmanuel Wargon, d'être venu nous l'expliquer ce matin sur Europe 1, ministre du Logement. Merci à vous, bonne journée.
Merci à vous.
Europe 1.
Il est 6h47. L'innovation du jour à suivre avec Anis Mbida.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 7h10 sur Europe 1. Déconfinement, étape numéro 1. C'est la fin des attestations en journée, la fin de la limite des 10 km aujourd'hui pour se déplacer. Le retour en classe pour les collégiens et lycéens après 4 semaines à la maison. Attention, le couvre-feu lui reste bien fixé à 19h. Nordal Lelandais soupçonné du meurtre de la petite Maëlys est en procès à partir d'aujourd'hui dans une autre affaire pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Les faits datent d'avril 2017. La junte militaire au pouvoir au Tchad nomme un gouvernement de 40 membres, dont certains opposants au président Idriss Déby, mort il y a 2 semaines. Un ministère de la réconciliation nationale est créé. Et puis il y aura bien des spectateurs à Roland-Garros, jauge limitée à 35% de la capacité des tribunes et à 1000 personnes maximum par cours. Le tournoi de tennis commence à la fin du mois. Europe 1 sera bien sûr la radio officielle. Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour, c'est une façon plutôt originale de construire des routes. Et là, je suis étonné moi-même de ce que je vais vous dire, puisqu'on va les tricoter, ces routes, avec du fil, plutôt que de les enrober avec du goudron.
Oui, c'est original et surtout beaucoup plus écologique. Alors, il faut imaginer un bras robotisé qui va commencer par étaler du fil selon un motif bien spécifique. Puis au fur et à mesure du tissage, on ajoute une fine couche de cailloux et on tasse. On tasse, les fils vont s'entortiller autour des pierres et finir par tout maintenir en place. Alors c'est surprenant, mais on obtient une structure extrêmement stable et extrêmement résistante. L'avantage, c'est évidemment qu'on se passe de goudron, on se passe de bitume, des dérivés du pétrole, du charbon, qui sont tout visqueux et qu'on utilise aujourd'hui pour coller les gravillons entre eux. Donc ce sera meilleur pour l'environnement, ça sera aussi plus confortable pour ceux qui posent la route puisqu'on n'aura plus d'odeur. Plus besoin de chauffer l'asphalte à haute température, on laissera simplement une machine tricoter la route.
Tricoter la route, nouvelle expression. Alors, c'est meilleur pour l'environnement, est-ce que ça reste aussi résistant sur le temps long ?
Alors, j'aurais posé la question, ils assurent qu'ils ont déjà construit un trottoir avec cette méthode et apparemment, il résisterait à une charge d'une demi-tonne sans qu'aucun petit caillou ne bouge. Enfin, l'autre avantage de tisser une route, c'est qu'elle devient naturellement poreuse, l'eau va s'infiltrer plutôt que de ruisseler. Il faut savoir que les nid de poule se créent parce que l'eau stagne dans les fissures et finit par geler, par gonfler et par créer ces fameuses crevasses. C'est une technique qu'on doit à des ingénieurs du laboratoire fédéral suisse d'essai des matériaux et de recherche. Alors, elle a encore besoin d'être testée, notamment sa résistance sur le long terme quand il y a beaucoup de trafic. Mais c'est une alternative intéressante pour un secteur qui manque encore aujourd'hui cruellement de solutions pour assurer sa fameuse transition énergétique.
Route sans pétrole et route sans nid de poule.
Exactement.
Pas mal, pas mal. Tricoter la route, nouvelle expression à suivre. Merci Anis Mbida, 5h52. Notre revue de presse internationale s'ouvre ce matin aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse américaine ?
Eh bien, l'ère du nucléaire dans la région de New York qui prend fin, titre le New York Times. Vendredi soir, la centrale d'Indian Point a stoppé sa production d'électricité. Située à 50 km de Manhattan, elle a fourni pendant des années un quart de la consommation d'électricité new-yorkaise. La fin d'un combat de plusieurs décennies, explique la chaîne CBS. Les autorités affirmaient que la centrale constituait une menace pour les millions d'habitants de la région. Le New York Post parle d'une fermeture prématurée qui résume parfaitement la folie du gouverneur en faveur de l'énergie verte. Le tabloïd prévient même ses lecteurs « Préparez-vous à des coupures de courant ». C'est un pas en arrière pour l'État de New York qui s'oriente vers une électricité sans carbone, car à court terme, c'est le gaz naturel qui comblera la demande, souligne Bloomberg. Mais à l'avenir, une grande partie de l'électricité de New York proviendra de parcs éoliens offshore. 5 projets sont en cours de développement et le premier devrait entrer en service en 2023.
Merci à vous Alexis Guilleux depuis New York pour Europe 1, direction le Brésil. Bonjour Marino Dacher.
Bonjour.
Qu'est-ce qui occupe les médias brésiliens ?
Ce sont les manifestations pro-Bolsonaro ce week-end dans plusieurs grandes villes du pays. Le président a survolé en hélicoptère ses partisans réunis à Brasilia, comme le montre une photo du quotidien Globo. Les jours qui viennent seront décisifs pour le chef de l'État avec cette commission d'enquête parlementaire qui va étudier sa responsabilité dans la lutte contre le Covid. La Folha de São Paulo précise que les trois anciens ministres de la Santé et l'actuel seront entendus à partir de demain et la presse révèle que 200 déclarations de Bolsonaro en anti-vaccins ou minimisant le Covid seront étudiés une par une par cette commission. Par exemple, la BBC rappelle que Bolsonaro a refusé les 70 millions de doses que Pfizer aurait pu livrer en décembre dernier. Motif, Pfizer ne se portait pas garant en cas d'effet secondaire. Vous pourriez vous transformer en crocodile, avait même dit le président du Brésil.
Marine Audacher au Brésil, le Brésil qui a dépassé les 400 000 morts du Covid. Nous terminons ce tour du monde ce matin en Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik.
Bonjour Sébastien.
De quoi on parle à Pékin ?
Alors les millennials sont à la une de l'actualité en Chine, la génération Z, c'est-à-dire les moins de 25 ans, soit 20% de la population chinoise. Et selon le South China Morning Post, ils consomment beaucoup. Les jeunes chinois dépensent en moyenne 3 fois plus que les jeunes français, selon le quotidien de Hong Kong. Deux particularités, ils achètent surtout des produits de luxe, l'équivalent de 15% de tous les produits de luxe vendus en Chine. Et ils dépensent près de la moitié de leurs revenus en cosmétiques et en opérations de chirurgie esthétique. Ce sont eux, explique le China Daily, qui tire la consommation chinoise et donc soutiennent la croissance du pays. Si la presse d'État y voit d'abord le symbole d'une confiance en l'avenir de leur pays, le quotidien de Hong Kong souligne aussi qu'il s'agit d'abord d'un marqueur social. Ces jeunes achètent surtout des marques européennes et américaines et n'hésitent pas, même pour cela, à emprunter de l'argent.
Sébastien Lebelzik à Pékin pour Europe 1. Merci à vous.
Europe 1.
La une du journal de 7h, ce sera bien sûr ce séisme politique en région PACA. Les Républicains qui vont réunir leur conseil stratégique après cette alliance conclue entre La République En Marche et le candidat sortant Renaud Muselier pour les régionales. Et puis le procès de Nordal Le Landais avec nos envoyés spéciaux sur place. Le 7-9 de Mathieu Béliard arrive dans un instant. A tout de suite. 6h58, très bon réveil, très bon début de journée. Vous êtes avec Mathieu Béliard pour le 7-9, je vous dis à demain.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à toutes et à tous. Lundi 3 mai 2021, soyez les bienvenus sur Europe 1. Ensemble, on écoute le monde changer. Et si on parle de premier jour du déconfinement ce matin, l'actualité aussi se déconfine et il y a d'autres sujets que le Covid dont on vous parle et qui font la une. La loi climat votée demain par exemple, Nordal Le Landais jugé pour la première fois aux assises, un bras de fer épique aux États-Unis entre Apple et l'éditeur du jeu vidéo Fortnite. Du sport ce matin, du rugby avec deux clubs français en finale de Coupe d'Europe, du football aussi avec la course au titre plus serrée que jamais. C'est ça aussi la vie qui reprend et on se posera même la question du masque en extérieur ce matin. La vie au rythme du virus qui peut changer un petit peu. Et l'actualité politique qui se déconfine, c'est ce séisme. À droite, Renaud Muselier qui accueille La République En Marche sur la liste, sur sa liste en région PACA, comme nous vous l'annoncions d'ailleurs sur Europe 1 dès mercredi dernier. Le parti qui lui retire l'investiture, qui menace de présenter une nouvelle liste. Le RN qui se frotte les mains et qui y voit des masques tomber. On va en parler dans nos journaux, à moins de 2 mois des régionales, dans l'édito politique de Nicolas Bétou. Et puis l'invité de Sonia Mabrouk aujourd'hui, c'est Éric Ciotti qui parle, lui, de coups de poignard dans le dos. Voilà quelques éléments du programme ce matin à 6h59. Nous accueillons à présent Laurent Cabrol pour la météo. Bonjour Laurent.
Salut Mathieu. Autre élément dans notre programme, il fait moins 3 degrés à Beauvais en ce moment, il en fait plus 6 à Paris et au passage 4 à Lille et Lyon. Cela veut dire qu'il fait froid, mais cela ne veut pas dire que la journée sera froide. Au contraire, c'est une journée de transition avant une semaine qui s'annonce dans l'ensemble pas très folichonne. Eh bien cette journée de lundi sera pas mal du tout avec seule la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais sous des nuages venus de la Manche et qui seront là progressivement, de plus en plus nuageux, de plus en plus voilés dans ces contrées et de la pluie ce soir. Sur Paris, sur Champagne-Ardenne, la Vallée de la Loire, ce sera également un peu voilé, mais pas de pluie, pas d'intempéries. Et sur toutes les autres régions de France, le soleil sera présent. Les températures maximales entre 16 et 19 degrés. Il en fera 18 dans la capitale, ça monte, 18 à Lyon, 19 à Nice, et pour les plus fraîches, 14 à La Rochelle. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, mon cher Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. On écoute le monde changer.